Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des plus grands personnages de l'histoire de France que Franck Ferrand nous propose de rencontrer pour bien finir cette semaine sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les romantiques au 19e siècle voyaient en lui l'homme rouge, le cardinal impérieux entre tous, une main de fer, disait-on, dans un gant de velours. Et c'est toujours un peu le redoutable Richelieu d'Alexandre Dumas que nous gardons à l'esprit. Depuis lors, les travaux de Michel Carmona notamment nous ont appris à découvrir un autre Richelieu, plus nerveux, plus fragile et autrement attachant. Michel Carmona me fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui.
Et vous avez aussi invité Cécile Dalby qui vient de consacrer à Richelieu une biographie.
Oui, un bel ouvrage qui présente notamment le grand mérite de s'interroger sur le regard que les historiens ont porté sur Richelieu, sur l'image, sur l'empreinte, sur la postérité du personnage. Le cardinal, qu'on le veuille ou non, fait partie des figures familières pour à peu près tous les Français. Une bonne raison, me semble-t-il, d'essayer de rectifier quelques idées fausses à son sujet.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le grand Corneille, l'auteur du Cid et d'Horace, a bien connu le cardinal de Richelieu puisqu'il a fait partie un temps de l'équipe des rédacteurs réunis par l'homme d'État pour écrire et pour versifier des pièces de théâtre sur des canevas que fournissait Richelieu. Eh bien, à la mort du cardinal, Pierre Corneille composa ce quatrain. Qu'on parle en mal ou bien du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Ce qu'un libelliste anonyme a transformé en une cinglante épitaphe, « Si j'y un fameux cardinal qui fit plus de mal que de bien qu'il fit, il le fit mal, le mal qu'il fit, il le fit bien. » Très tôt. Du vivant même de Richelieu, sa stature hiératique et, disons-le, la majesté de ce prélat ministre revêtu de la pourpre cardinalis, son caractère secret, son jugement des reins, ses arrêts implacables ont entretenu l'image d'un personnage froid jusqu'à l'inhumanité, dur jusqu'au monstrueux. Bien sûr, cette image ne ferait que croître et embellir dans les siècles suivants. On sait que Bonaparte, encore général, ne se séparait pas des mémoires du cardinal et de son testament politique, qu'il prenait soin d'annoter lui-même. Alexandre Dumas, évidemment, devait forger pour les siècles un portrait à charge du personnage, portrait dont on retrouve l'écho sous des plumes a priori peu suspectes de partialité. Voici un portrait physique par Auguste Bailly, le grand jurassien. Grand, pâle, avec ses traits aigus accusés encore par la coupe de la moustache et de la barbe, avec cette hauteur souveraine de l'allure et cet éclat fiévreux de deux yeux brûlants dont le regard avait une expression profonde, énergique, presque douloureuse, avec cette sveltesse aisée du cavalier qu'un caprice du sort a paré des lourds ornements ecclésiastiques. Philippe Erlanger entre un peu plus avant dans la tête du personnage. Les flots de la pourpre sous laquelle se cachaient les pires misères physiques conféraient au corps élancé long une majesté fastueuse qui semblait émaner d'un empereur plutôt que d'un prince de l'Église, écrit-il. Quant au subtil Maximin Deloche, il insistait sur la souplesse féline de l'esprit de Richelieu. Séduisante et charmeur, souple et insinuant, langue dorée, parole de soie, yeux de velours, masque mobile à volonté, en voilà assez pour avoir fait de lui un séducteur incomparable. Alors ça, c'est pour les historiens modernes. Mais que disent les contemporains du cardinal, son ennemi Mathieu de Morgues ? Il est toujours en branle parce qu'il est suspendu entre crainte et espérance. Son élève, si je puis dire, le cardinal de Retz. Il eût souhaité d'être aimé du public, mais quoiqu'il eût la civilité, l'extérieur et beaucoup d'autres parties propres à cet effet, il n'eût jamais le je ne sais quoi qui est encore en cette matière plus requis qu'en tout autre. Il devait échoir à un baroque anonyme de proposer cette synthèse en vers. Il mêle la douceur du miel à l'amertume de son fiel. Il ne perce qu'en caressant, il n'étouffe qu'en embrassant. Il flatte même lorsqu'il tue, et son âme n'est jamais nue.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous vous retrouvons avec votre invité, l'historien Michel Carmona, qui est le grand biographe de Richelieu.
Oui, un des plus récents. Bonjour Michel Carmona.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce personnage dont on ne pourra jamais faire le tour, probablement. Personnalité incroyable, psychologie d'une profondeur inouïe et biographie, tout simplement, à couper le souffle. Cette histoire-là est un incroyable roman. Il faut dire que Richelieu est né dans une très grande famille, déjà, il faut dire. Hein.
Oui, il est né dans une très grande famille de ce qu'on pourrait appeler des hauts fonctionnaires, on pouvait prendre le mot d'aujourd'hui. Et son père est une sorte de préfet de police de la cour. Alors, il avait fort à faire, hein, parce que la cour, à l'époque où il exerçait ses fonctions, c'était celle de Henri III, le dernier des rois valois. Et bon, c'était une cour où on ne s'embarrassait pas trop de scrupules en tout genre. En tout cas, il était très installé là, il était très proche de Henri III. Et les trois fils de ce père bien né et bien nanti pouvaient espérer faire des grandes carrières. Alors, il faut dire quand même que notre Richelieu, le cardinal, voilà, concurrence, c'est le plus jeune. Oui. Alors, l'aîné qui
c'est le petit dernier.
C'est le petit dernier, voilà, c'est ça. Et l'aîné Henri, il aura le titre et puis il fera carrière à la cour. Le deuxième, Alphonse, il va recueillir l'évêché de Luçon. Alors, ce n'est pas très brillant, l'évêché de Luçon. Armand, notre cardinal, dira plus tard que c'est l'évêché le plus crotté de France. C'est à une quarantaine de kilomètres de La Rochelle et c'est une sorte de laissé-pour-compte. Mais même un laissé-pour-compte, ça produit des revenus.
C'est toujours une très jolie cathédrale, cela
dit. Ah, très belle, très très belle, très belle. Et donc, quant à Armand Jean, eh bien, on lui apprend le métier des armes, on lui apprend à danser. Je rectifie quelque chose que beaucoup d'historiens, de grands historiens disent et se répètent. Il était petit. Il était petit et il compensait avec des talons très hauts.
Et surtout, comme il était très mince, ce visage émacié et qu'ensuite il portait si bien la pourpre, voilà. On a gardé l'image d'une sorte de stature immense, mais ce n'est pas le cas. Hein.
Ce n'est pas le cas. Physiquement, il n'était pas très grand. Mais la stature immense, c'est quelque chose qu'il cultivait. Mmh. Parce que notre
Armand Jean, le charisme, finalement.
De Richelieu, oui, et je dirais que c'est un as de la com. Voilà, en fait, il a un talent extraordinaire, justement, dans ce domaine. Et il est servi par, à la fois, une intelligence très très vive, une très grande culture, beaucoup de facilité, un sens de l'observation qui est très fort, et cette espèce de mobilité quasi maladive hein, de son esprit. Parce que, en fait, il est physiquement malade. C'est quelqu'un d'hyper nerveux. Il a des crises qui sont des crises paroxystiques.
Il faut dire que dans la fratrie, ça a mal tourné pour tous, quasiment.
Tous avaient un grain.
Oui, c'est ça, voilà.
Bon, l'aîné, Henri, il est mort très tôt dans un duel. Mais le deuxième, Alphonse, il se prenait pour Dieu de temps en temps.
Oui.
Quant aux deux sœurs, elles étaient également toutes les deux folles. Il y en avait une qui était... il y en avait une qui était tellement folle qu'elle était persuadée qu'elle avait un fessier en verre. Ah, alors donc, évidemment, de peur de le casser. Voilà, donc elle était sans arrêt debout ou allongée.
Elle restait debout donc. Hein.
Alors évidemment, ça nourrissait la verve, j'allais dire, des critiques, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de journaux satiriques, de feuilles volantes à cette époque. C'est une époque où il y a une richesse d'expression des gens qui est absolument prodigieuse.
Et une très grande verdeur dans la façon d'exprimer les critiques. Évidemment. Alors, Richelieu est d'emblée très ambitieux. On ne peut pas dire que les ordres le comblent. Ce n'était pas une vocation chez lui.
Non, ce n'était pas une vocation puisque c'était Alphonse qui était avant lui qui devait prendre l'évêché de Luçon.
Il aurait pu être un grand homme de guerre, d'après vous ?
Probablement. Oui, probablement. En tout cas, il s'était préparé à ça. Et alors voilà que Alphonse décide de ne pas prendre l'évêché de Luçon, mais d'aller s'enfermer à la Chartreuse. Et pour ne pas perdre l'évêché, évidemment, la famille dit à Armand Jean, mais on n'a même pas besoin de lui dire, il sait que c'est son devoir, d'entrer dans les ordres. Alors il entre brillamment, il est ordonné prêtre, il est sacré évêque, et il prend possession de Luçon. Mais il n'a pas l'intention d'y faire de vieux os.
Plus tard, quand il sera devenu cardinal et principal ministre de Louis XIII, il lui arrivera encore de célébrer la messe dans les grandes occasions seulement, et les témoins disent qu'il le faisait avec beaucoup de recueillement néanmoins.
Ça, c'est une grosse question. C'est quelle était la foi de Richelieu ? Voilà, la foi de Richelieu. C'est une question qui intriguait beaucoup le pape de l'époque, qu'il avait bien connu, et qui, on peut le dire, au moment de la mort de Richelieu, le pape apprend que Richelieu est mort dans son lit. Mais alors, étonnement général, parce qu'il y a eu tellement de complots, mais les complots ont tous échoué. Et alors, le pape dit à ce moment-là, si Dieu existe, j'ai bien peur pour l'âme du cardinal. Mais si Dieu n'existe pas, bien joué. Alors, je pense que Richelieu, lui aussi, devait se dire, bon, si Dieu existe, il vaut mieux rester dans les clous. Et c'est pour ça que je crois qu'il accomplissait...
On est peu avant le pari de Pascal.
Ah oui, 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 je pense que c'est ça aussi.
Alors, l'intégration de Richelieu à la cour ne se fait pas aussi bien qu'il l'aurait espéré.
C'est-à-dire qu'il démarre très vite, trop vite.
Trop vite.
Et il va le payer.
Et voilà.
C'est vraiment le jeune homme pressé. Mmh. Voilà, en deux mots, après l'assassinat d'Henri IV en 1610, Richelieu, il est jeune, il a 25 ans, mais enfin, il a envie d'entrer à la cour et d'avoir des fonctions. Alors, c'est la veuve d'Henri IV, Marie de Médicis, qui exerce la régence. Et en fait, Marie de Médicis, elle fait toute confiance à un couple de Florentins qui sont venus avec elle au moment de son mariage et qui s'appelle les Concini. Alors, il y a la dame qui s'appelle Léonora Galigai.
La Galigai,
dont les historiens du 19e siècle ont fait un portrait épouvantable. Et il y avait son mari, Concino Concini, qui était un
maréchal d'encre,
qui était alors un superbe livre de Vigny sur le maréchal d'encre. Et il y a des occasions dans lesquelles on voit que Concino Concini, il avait le sens de l'État. Mais le problème, c'était le fils aîné de Henri IV, Louis XIII, qui avait 9 ans à la mort de son père, donc il était mineur. Mais la majorité pour les rois de France est fixée à 13 ans. Alors on célèbre sa majorité. Et puis, il s'empresse de confier la suite du gouvernement du pays à sa maman. Et sa maman le considère comme un benêt, un imbécile. Et comme chez les Médicis, on a le poison facile et le couteau facile,
on s'en
Louis
est rendu
XIII
compte il y a quelques jours, puisqu'on en parlait.
Exactement.
Voilà. Et Louis XIII, donc, laisse faire sa mère et Concini. Et Richelieu parvient à entrer dans le gouvernement de Concini, à un poste très exposé, ministre de l'Intérieur.
C'est le début d'une carrière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne sera pas aussi facile qu'on pourrait le penser.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Fanfare, une musique royale sur Europe 1 composée par Philidor. Nous nous intéressons aujourd'hui avec vous, Franck, et votre invité au cardinal de Richelieu. D'ailleurs, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur le site europe1.fr et sur la page Facebook.
Oui, il y a déjà quelques messages par Facebook que j'ai mis de côté pour tout à l'heure. Michel Carmona, nous avons bien compris que Richelieu est maintenant, il a un pied dans la place, si je puis dire. Et il est très vite le chouchou, si je puis dire, de Marie de Médicis, en vérité. Ce qui énerve le jeune roi.
Ça l'énerve à un point tel que le jeune roi fait assassiner Concini, et ça Richelieu ne l'avait absolument pas vu venir. Il fait assassiner Concini, il exile sa chère mère.
On va dire qu'il laisse assassiner Concini. Pour...
C'est-à-dire il y a les formes quand on lui dit « Et si Concini résiste à l'ordre d'arrestation, qu'est-ce qu'on fait ?» Il ne répond pas. Et on lui dit « C'est très bien. » Et on lui dit « Et si on le tue dans le feu de l'arrestation, il ne répond pas non plus. » Donc ça constitue visiblement un feu vert.
Mauvais coup pour Richelieu, ça, évidemment.
Ah oui, alors il ne sait pas trop quoi faire. Il se dit hardiment « Je vais me présenter devant le roi. » Et puis le roi lui dit, devant toute la cour assemblée qui est en train de le féliciter, « Hors de ma vue, monsieur de Richelieu, et retournez dans votre évêché, n'en sortez plus. » Et comme Richelieu, quelques mois après, a des démangeaisons, si on peut dire, et sort de son évêché, cette fois, c'est le bannissement en Avignon, qui n'est pas une terre française, mais qui est aux limites de la France et qui est sous la juridiction du pape. Et en fait, on s'apprête même à faire un procès politique à Richelieu. Mais les événements vont jouer en sa faveur. Et grâce aux bisbilles entre Marie de Médicis, qui ne se console pas d'être enfermée, et Louis XIII, il va revenir sur le devant de la scène, remorqué par Marie de Médicis.
Et ce qui est fort, c'est qu'au moment où Marie de Médicis, à son tour, n'en peut plus et veut se séparer de Richelieu, c'est la célèbre journée des dupes, on est en novembre 1630, il y a ce retournement rassemblement incroyable en une journée. Oui. Le Richelieu va dans le petit relais de chasse que Louis XIII a à Versailles. Il tombe dans les bras l'un de l'autre et Louis XIII confirme Richelieu dans sa place, au détriment non seulement de tous les ministres du Conseil, mais de Marie elle-même. En fait, hein.
Tout à fait. Et ça, c'est probablement la chose qui, dans la mentalité de l'époque, a le plus choqué. Parce qu'il y a un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui est le mot de créature. Vous avez quelqu'un qui est un patron, mais qui vous remorque dans la vie, et vous êtes sa créature. Et vous êtes obligé de le suivre. Et Richelieu est la créature de Marie de Médicis, et donc il trahit sa créature, et c'est ce que lui dit Marie de Médicis. Et donc ça, c'est quelque chose qui va lui coller à la peau, on va se dire finalement, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à la parole qu'il doit à la personne qui l'a fait.
Et néanmoins, à partir de cette fin de l'année 1630 et jusqu'à sa mort en 1642, décembre 1642, donc ça va durer 12 ans encore, il est vraiment le patron, si je puis dire. Alors certes, c'est le roi qui règne, mais il conseille, il administre, il mène globalement la politique. Alors une politique qui d'une part va s'opposer aux Habsbourg, bien entendu,
bien sûr.
Politique étrangère extrêmement agressif de la France. Ça, c'est quand même... Et puis, sur le plan intérieur, une politique très anti-protestante, il faut le dire.
Anti-protestante jusqu'à un certain point. Après Henri IV et l'édit de Nantes qui établit la tolérance, Louis XIII a été, lui, chauffé à blanc dans la foi catholique. Et on lui a expliqué, quand il était tout jeune déjà, que sa mission, c'était d'éradiquer le protestantisme. Et dès qu'il a pris le pouvoir personnel, il engage la guerre. Il engage la guerre dans le Béarn, à La Rochelle, etc. Une guerre qui n'est pas toujours très heureuse. Là-dessus, Richelieu arrive au pouvoir. Et Richelieu, alors Richelieu qui a des sentiments très partagés. Richelieu, il est comme beaucoup de gens de l'époque, la moitié de sa famille est protestante.
Et oui.
Alors, vous savez, sur le dogme, bon, c'est pas quelqu'un qui va fulminer, excommunier, etc. Et il trouve que, bon, compte tenu des urgences politiques, on a mieux à faire que de s'étriper sur la messe ou sur des questions de ce genre.
Mais il y a la question de l'autorité royale, de la place de l'État et de ce qu'on va appeler la raison d'État.
Voilà. Alors, c'est pour ça que Richelieu va mener, alors personne ne croyait que c'était possible, le siège de La Rochelle qui va durer un an. Et il profite du siège de La Rochelle pour ensuite dire aux protestants, bon, allez, c'est fini maintenant. Et on a mieux à faire, c'est la guerre à l'extérieur plutôt que la guerre à l'intérieur. Et ça encore, c'est quelque chose que Marie de Médicis et tous les gens qui partagent les idées de Marie de Médicis. Alors à l'époque, on dit c'est le parti dévot. Bon, c'est une étiquette commode pour les désigner.
Pas des petits bovins, hein, des veaux. Des gens, des bigots en quelque sorte.
Des bigots, voilà, exactement. Et ils disent, ben, Richelieu est un traître. Et comment peut-on être évêque, cardinal en plus, et faire aussi peu de cas de l'unité des chrétiens?
Ça sera pour Richelieu une sorte de divorce intime, cette affaire, hein, finalement, qui va le torturer beaucoup plus qu'on imagine. On a toujours l'image de cet homme implacable, extrêmement dur. Il est quand même très souvent, il est fragile, il pleure beaucoup. On dit qu'il a la larme facile.
Hein. Et il pleure énormément. Marie de Médicis l'accuse d'ailleurs de pouvoir pleurer à volonté. mais vis-à-vis de Marie de Médicis, qui ensuite a été écartée du pouvoir, vit en exil hors de France, il a toujours, comme vous venez de le dire, cette envie d'essayer de se réconcilier avec elle. Il lui écrit, elle lui renvoie les lettres et finalement il n'arrivera jamais à retrouver la paix finalement de cette espèce de cassure dans sa vie, dans sa conscience qui a été la journée des dupes et le divorce avec Marie de Médicis.
Alors, tout à l'heure avec Cécile d'Albi, on verra quels étaient les rapports, les liens tellement complexes entre le roi Louis XIII et son principal ministre. Ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est comment Richelieu vivait cette espèce d'insécurité personnelle. Il a subi un très grand nombre de complots et d'attentats. Ouais. Il était l'ennemi public numéro un chez les grands, en tout cas.
Oui, tout à fait. Chez les grands et même ailleurs. Et il y a eu beaucoup de complots, dont certains financés par l'Espagne, par les Habsbourg, ce qui se comprend, puisque c'est un état de guerre perpétuelle. Et ce qui a été le plus dur pour lui, le plus grave, c'est que tout à fait à la fin de sa vie, un favori de Louis XIII, dont il avait fait la carrière, qui s'appelait Saint-Mars, a comploté contre lui, et il a eu le sentiment que Louis XIII avait autorisé Saint-Mars à l'assassiner, comme Louis XIII avait autorisé l'assassinat de Consigny. Ça a été la chose la plus épouvantable pour lui.
Comme c'est déchirant pour lui, ça. Merci beaucoup, Michel Carmona. Je pense que nos auditeurs, à vous entendre, ont compris avec quel talent et quelle truculence vous pouvez faire revivre cette époque, ce début tellement glorieux du XVIIe siècle. Je rappelle, parmi de nombreux livres, Lorena m'a mis toute la pile là à côté de moi, mais je rappelle, bien sûr, chez Fayard, votre biographie de Richelieu. Merci, Michel Carmona.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Place maintenant au récit de Franck sur Europe 1. Et Franck, votre récit aujourd'hui lié à un drôle de rêve que vous avez fait.
Et dont je vais vous faire profiter, Julien. Donnez-moi, disait Richelieu, une ligne de la main d'un homme, je me charge de le faire pendre. Lui-même a cependant beaucoup, beaucoup écrit, ou tout au moins il a beaucoup dicté à des secrétaires qui, paraît-il, s'épuisaient de sa prolixité. Mémoire, testament politique, abondante correspondance, notes marginales, rapports divers, on possède assez de tout cela pour le faire parler. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Alain Decaux il y a une quarantaine d'années, allant grappiller toutes sortes de citations passionnantes au sein de ce corpus intimidant par son importance. Je m'en délectais moi-même hier soir en préparant cette émission. Il faut croire que j'ai dû m'assoupir à mon bureau, car soudain je l'ai vu. Il était là, immobile, un peu cireux, à quelques pas de moi, un peu là, beaucoup plus humble d'apparence, surtout beaucoup plus mobile de traits que je ne me l'étais figuré. Un imperceptible mouvement de paupières m'a fait comprendre qu'il était prêt à s'exprimer. Éminence, c'est moi qui parle, là. En fait je ne savais pas si j'aurais dû dire monsieur le cardinal, tant pis c'était dit. Éminence, je dois parler de vous demain à la radio et si vous aviez bien voulu, j'aurais aimé que vous me disiez d'où vient cette passion que vous mettez à servir l'État. Bon, comme on dit, c'était une question qui ne mange pas de pain, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Servir l'État, a repris mon interlocuteur. Monsieur, je n'ai jamais été au milieu des grandes entreprises qu'il a fallu faire pour l'État que je ne me sois senti comme en la mort. Voyons, peut-être avec une pointe de satisfaction, en tout cas c'est ce que j'ai cru sentir, que cette réponse me surprenait, il a enfoncé le clou. Les grands hommes qu'on met au gouvernement de l'État sont comme ceux qu'on condamne au supplice, avec cette différence que ceux-ci reçoivent la peine de leur faute et les autres de leur mérite. Je me suis promis d'en faire part à quelques gouvernants actuels que cela pourrait peut-être soulager. La pièce où nous étions était sombre, mon interlocuteur était un peu tassé dans un grand fauteuil à oreilles, vous savez, avec un chat sur les genoux. Je tâchais de jeter un coup d'œil discret aux belles boiseries sans pouvoir distinguer où nous étions vraiment. Est-ce qu'on était au Palais Cardinal, ou bien au Petit Luxembourg, rue de Vaugirard, ou bien au Château d'Orbeil? Difficile à dire. Je lui demandais comment il aurait pu définir les rapports de travail qu'il entretenait avec le roi Louis XIII. « Voyez-vous, monsieur, depuis qu'il a plu au roi de me mettre dans son conseil, la façon dont il daigne se confier à moi me rend redevable en son endroit de plus de 1000 vies si je les avais. J'ai un indicible contentement de croire qu'il connaît la passion que j'ai à son service et que je conserverai jusqu'au tombeau. » Bon, je pensais qu'il avait répondu sur le chapitre, mais il a ajouté d'une voix légèrement vibrante « Il faut parler au roi avec des paroles de soi. » Comme il est de l'obligation du fidèle conseiller de les avertir en particulier de leurs défauts avec adresse, il ne saurait les leur représenter publiquement sans commettre, me semble-t-il, une véritable faute. Je me contentais de sourire, comprenant qu'en vérité, mon interlocuteur n'avait pas vraiment grand-chose à faire de mes questions. Ce qui l'amusait, ça c'était visible, ou plutôt ce qui lui importait, c'était de redresser l'image que le public s'est faite peu à peu de sa personne et de sa mission. « Vous savez, monsieur, plus un ministre est utile à son maître et puissant en son esprit et en sa grâce, plus il y a de personnes qui l'envient, qui désirent sa place et essaient de l'en faire déchoir pour l'occuper. Il faut donc se laisser calomnier et passer outre. Au risque de sa vie, demandai-je, pensant à tous les comploteurs arrêtés et exécutés sur ses ordres. Je méprise la propre sûreté de ma personne et la haine de tous les grands pour satisfaire la fidélité que je dois au roi qui se confie à moi. » Je me dis à cet instant que la langue de bois n'était pas l'apanage de notre époque. Mon interlocuteur a sans doute perçu un flottement chez moi ou un accès de doute parce qu'il a ajouté, en tout sautant, « Au demeurant, comme les gentilshommes méritent d'être bien traités lorsqu'ils font bien, il faut leur être sévère s'ils manquent ce à quoi leur naissance les oblige. » Petite concession qui m'a rendu mon courage. « Monsieur le cardinal, on a beaucoup reproché à votre éminence ducale une apparente absence de pitié envers ses ennemis. » « Envers mes ennemis ou bien envers ceux de l'État ?» À vous de me le dire. Il m'a semblé que la moustache frémissait. Le beau regard très doux s'est même voilé. Mon interlocuteur a renvoyé le chat et non sans grimacer, il s'est redressé dans son fauteuil. Un chrétien ne saurait trop oublier une injure et pardonner une offense, ni un roi, un gouverneur et un magistrat trop tôt les châtier quand les fautes sont d'État. Cette différence, monsieur, est grande. En matière de crimes d'État, il faut fermer la porte à la pitié et mépriser les plaintes des personnes intéressées et les discours d'une populace ignorante qui blâme quelquefois ce qui lui est le plus utile et souvent même tout à fait nécessaire. En plusieurs monopoles, factions et séditions qui se sont faites en mon temps dans ce royaume, je n'ai jamais vu que l'impunité ait porté aucun esprit naturellement à se corriger de sa mauvaise inclination, mais au contraire, tous sont retournés à leur premier vomissement et souvent avec plus d'effet la seconde fois que la première. Je fis une allusion un petit peu délicate à Saint-Marc et à De Thou. « Il n'y eut jamais si grande conspiration que celle qui vient d'être découverte, me dit-il. En telles affaires de si grande importance, les soupçons légitimes doivent quasi tenir lieu de preuve ou bien en approcher. Les grands États ont de temps en temps besoin de rigoureux exemples, pour ne pas dire de violents exemples, afin de contenir par la crainte chacun en son devoir. » Eh bien, une populace ignorante, voilà des mots qui avaient un petit peu heurté ma sensibilité moderne. Alors je me suis permis de faire remarquer au cardinal que lui-même, bien que fondateur de l'Académie française, n'avait pas fait grand-chose pour lutter contre l'illettrisme. J'ai cru sentir alors qu'il regardait comme de la naïveté ce qui animait ma question. Ça l'amusait peut-être au fond. « La connaissance des lettres est tout à fait nécessaire en une république, dit-il. » Il est certain qu'en monarchie, elle ne doit pas être indifféremment enseignée à tout le monde. Ainsi qu'un corps qui aurait des yeux en toutes ses parties serait monstrueux, de même un État le serait-il si tous ses sujets étaient savants. On y verrait aussi peu d'obéissance que l'orgueil et la présomption y seraient ordinaires.
Le récit de Franck Ferrand.
Franck qui poursuit aujourd'hui sur Europe 1 son dialogue imaginaire avec Richelieu.
Imaginaire, c'est vous qui le dites. J'aurais dû vous prévenir, ce cardinal n'est pas à proprement parler un progressiste. Effectivement, pour lui, il vaut mieux que les lettres et la culture soient réservées à une toute petite élite. 7 à 8 collèges en France suffiraient amplement à entretenir le feu du temple, disait-il. Voici du reste ce qu'il m'a dit des femmes. De même que les femmes n'ont point de voix en l'Église, je suis de ceux qui croient qu'elles n'en doivent point avoir dans l'État. Il a dû sentir que j'allais protester, au moins pour la forme. Croyez-m'en, dit-il. Le naturel des femmes les porte plutôt à suivre leurs humeurs que la raison. Elles sont naturellement paresseuses et souvent peu secrètes. Si l'on considère encore qu'elles sont fort sujettes à leurs passions et par conséquent peu susceptibles de raison et de justice, le seul principe les exclut de toutes les administrations publiques. Il n'y a rien qui soit si capable de perdre l'État que les femmes. Je me suis redressé. J'ouvrais la bouche pour protester, mais il ne m'en a pas laissé le temps. Il avait un sourire assez figé, artificiel. « Monsieur, serviteur très humble. » Ça, c'était le signal, bien connu de tous les visiteurs du cardinal, signal de la fin de l'entretien. « Monsieur, serviteur très humble. » Je n'avais plus qu'à rouvrir les yeux et à transcrire tout cela pour vous.
Libertas, une musique royale sur Europe 1 composée par Philidor.
Bonjour Cécile Dalbis, vous êtes l'auteur d'une biographie de Richelieu chez Armand Collin, une biographie qui s'attache dans toute sa deuxième partie à ce qu'on appelle l'historiographie chez les gens du métier, c'est-à-dire à ce qu'on a pu dire et écrire de Richelieu après sa mort et à l'image qu'il a laissée. Alors dites-moi si j'ai rêvé, n'est-ce pas, ou s'il était vraiment hypochondriaque, s'il était vraiment torturé de toutes sortes de maladies réelles et imaginaires.
Alors, il était réellement torturé de maladies réelles et imaginaires. Il était malade et hypochondriaque. Plus il était malade, plus il était hypochondriaque.
Un grand nerveux, finalement.
Un grand nerveux. Et la peur des complots était bien réelle. Et il avait raison d'avoir peur des complots, en effet.
Je me rappelle avoir entendu, mais c'était vraiment dans les cours de récréation. C'est un souvenir d'enfance. Mais on disait que si Richelieu était entouré de chats, c'était pour qu'il goûte les plats qu'on lui servait, pour être certain qu'on n'essayait pas de l'empoisonner. C'est une légende, ça?
Alors,
c'est d'Alexandre
doute,
Dumas, peut-être.
Oui, il y a toutes sortes de légendes qui font partie du personnage et qui servent à souligner chez lui l'idée de duplicité, mais aussi l'humanité profonde du personnage. Donc, c'est un personnage qui est toujours raconté sous la forme d'un grand tyran et d'un grand humain. Et on n'a jamais réussi à sortir de ce sorte de récit que lui-même avait si bien imaginé.
Alors, la fin de sa vie est vraiment rendue difficile par les rhumatismes, par la goutte, il est perclus, il ne peut quasiment plus se lever, on le porte, hein, il a une sorte de chaise à porteur, et puis il circule beaucoup en litière parce que c'est moins dur, moins pénible que les chaos de la voiture. Il va finir très malade, en même temps que le roi, auquel on dirait qu'il est définitivement lié et attaché. La passion de sa vie, au-delà de l'État, c'était peut-être la passion de servir le roi.
Et finalement, oui, leurs deux maladies se sont complétées. Ils s'écrivaient souvent pour se souhaiter bon rétablissement l'un l'autre. Et leurs maladies se redoublent curieusement. Elles sont humiliantes des deux côtés. Ce sont des maladies, des hémorroïdes, des maladies intestinales, des maladies sales, dégoûtantes, dont se moquent beaucoup les pamphlétaires. Et qui ont un vrai rôle politique. Là encore, elles servent à démontrer le service dévolu entièrement au bien commun, le martyr presque au service de la fonction ministérielle pour l'un, le martyr du roi.
Et le roi qui ne survivra pas longtemps à son ministre du reste. Hein,
et puisque... le roi meurt quelques mois après son ministre, en mai 1643, donc très peu de temps. Après, laissant la place à un nouveau régime qui va entièrement démolir ce qu'avait fait ce régime à deux pendant si longtemps.
Et pourtant, c'était un homme de Richelieu, Mazarin, qui va devenir l'homme fort de ce nouveau régime, de cette régence d'Anne d'Autriche. Ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Alors revenons à ce personnage d'Henri IV. On sait que l'un des ennemis... Enfin, en tout cas, l'une des difficultés qu'il a eu à rencontrer, c'est avec la noblesse, bien entendu. C'est avec les grands, comme on disait à l'époque. Il lui a fallu la domestiquer, cette noblesse, et c'est elle qui, à plusieurs reprises, a failli avoir sa peau.
Oui, absolument. Il en s'est fallu beaucoup de hasard, des victoires qui n'étaient pas du tout attendues, des bons coups joués au bon moment aussi. Et surtout, l'entraînement du pays dans cette guerre étrangère sur tous les fronts, qui a dévié l'attention de la grande noblesse vers des terrains différents et qui a permis également de renforcer les institutions à l'intérieur du pays aux dépens de cette noblesse qui progressivement a perdu une grande partie de son pouvoir.
Est-ce que la maladie qui a accompagné Richelieu, on peut dire, pendant les 4-5 dernières années de son existence, ne faisait pas partie de son, en quelque sorte, de cette espèce d'image qu'il voulait créer, justement? Est-ce que c'était pas un peu mise en scène, tout ça?
Ah, c'est totalement mise en scène, et c'est ça qui est très intéressant, il me semble, pour la compréhension de la pratique du pouvoir en général à toutes les époques, parce que les politiques mettent toujours leur corps en scène d'une manière ou d'une autre. Et Richelieu a inventé sa fonction. Il a créé une fonction totalement nouvelle au sein de l'État. Il était obligé, du même coup, de se créer entièrement une marque de fabrique, bien à lui, et qui passe notamment par la maladie, qui est une mise en scène du martyr au service du roi, qui est une mise en scène également d'une sorte de duplicité dangereuse. Il faisait très peur. Il est étonnant de voir qu'on se moque beaucoup de ces maladies qui sont, comme je le disais, dégoûtantes et absolument honteuses. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui l'affaiblit, au contraire.
À la limite, plus il est malingre, plus on a l'impression qu'il n'est retenu à la vie que par un fil, et plus il fait peur.
Oui.
C'est quand même bien un tyran dont on parle. Est-ce qu'on sait de quoi il est mort exactement? Parce qu'au milieu de toutes ces maladies, évidemment, c'est peut-être difficile.
Alors, il y a eu une autopsie, mais évidemment, selon les critères de l'époque, on sait que c'est une maladie pulmonaire, mais laquelle exactement est difficile de le dire. Et l'autopsie s'est surtout attachée à détailler l'ampleur de son cerveau, n'est-ce pas?
Ah oui, pour expliquer d'où venait un si grand génie.
Un si grand génie.
C'est vrai que lui-même estimait être non seulement un grand homme d'État, mais il pensait être un intellectuel. On dit qu'il organisait des joutes de bons mots et des joutes d'esprit avec les gens comme Desmarets de Saint-Sorlin, etc., qui étaient les esprits les plus raffinés de son temps. Et dit Desmarets de Saint-Sorlin, non seulement il aimait beaucoup, il prenait beaucoup de feu, dit Saint-Sorlin, à ces jeux-là, à ces joutes, mais il importait beaucoup qu'il eût le dessus. Il fallait toujours qu'il domine, en fait.
Oui, il a un sens de la hiérarchie extrêmement important et il s'est beaucoup servi de ses bons mots et de ses sentences qu'il resservait à diverses occasions et qu'il connaissait par cœur. Donc il devait être très très fort à ce jeu-là et les créatures qu'il avait autour de lui étaient là pour le flatter.
Pour le mettre en valeur, en quelque sorte.
Pour le mettre en valeur.
Alors, excite Richelieu, le voilà mort. Nous allons voir ce qu'après sa mort, il a laissé, aussi bien sur un plan politique que plus généralement dans la légende de l'histoire de France.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec votre invité aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Cécile Dalbis, qui vient de consacrer une biographie à Richelieu, disponible chez Armand Collin.
Et cette biographie s'appelle tout simplement Richelieu. On aperçoit l'homme rouge qui est bel et bien rouge, hein, sur la couverture. Il y a quand même comme ça des espèces de tropismes dont on ne sortira jamais, je pense. Il restera pour les siècles l'homme rouge. Ce qui est étonnant, il faut quand même dire ça, Cécile Dalbis, c'est que on n'a aucune trace de Richelieu. Déjà, on a l'impression que tout ce qu'il concerne disparaît, même ses propres maisons, en fait.
Oui, y compris son corps lui-même.
Ah, son corps, déjà, oui.
Oui, alors... Ses possessions ont très vite disparu, tout simplement parce qu'il n'avait pas de descendance directe. C'était un ecclésiastique, rappelons-le. Et ses petits-neveux ont été particulièrement dispendieux. Alors, il y en a un qui s'est fait retirer tous ses biens par le roi parce qu'il jouait trop au jeu. Et puis, le dernier, l'ami de Voltaire, qui était un somptueux personnage, a essayé de récupérer pas mal de choses, mais il n'y est pas parvenu
Fronsac,
totalement.
Donc. Qui sera le duc de Richelieu.
Voilà, exactement. Et les biens ont fini par être vendus pierre par pierre après la Révolution.
Le château, ce qu'il faut dire, c'est que Richelieu s'était fait construire une sorte de Versailles à lui, à Richelieu, ça ne s'invente pas, dans une ville à son nom, qui se trouve donc en Indre-et-Loire. Hein,
région
pas
d'origine.
Très loin de Loudun, au nord de Loudun. Et ce château, aujourd'hui, n'existe plus du tout. Il reste deux pavillons dans le parc.
Oui, il ne reste absolument rien. La seule chose qui reste, c'est cette ville qui est somptueuse et qui est restée presque intacte puisqu'elle s'est endormie dès l'époque, dès la mort de Richelieu. Il ne se passait plus rien, ce qui a suscité pas mal de sarcasme dans la période suivante où on voyait cette somptuosité laissée à l'abandon. Donc ça ressemble à la place des Vosges parisienne.
Oui, c'est ça, c'est ce style-là.
À l'ampleur d'une ville et à part ça, il ne reste rien. Il ne reste rien de Rueil qui était magnifique, qui possédait des jardins baroques absolument somptueux. Il ne reste rien jusqu'à son tombeau qui a été vandalisé sous la Révolution, après ceux des rois à Saint-Denis, donc ce qui est très significatif. Et son corps a été dispersé, il ne reste rien.
Est-ce que tout ça est lié à une forme de haine ou de mauvaise réputation, ou est-ce que c'est le simple hasard
C'était la haine de l'Ancien Régime que représente Richelieu.
La monarchie absolue incarnée
dans Richelieu comme l'initiateur de l'absolutisme.
Alors la légende noire du personnage est née de son vivant, ça c'est quand même assez rare. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une réécriture post-mortem. Dès la vie de Richelieu, il a déjà énormément d'ennemis qui ne vont faire, après sa mort, que croître et embellir. C'est assez étonnant ça quand même.
Voilà, il avait des pamphlétaires à son service, au temps où il était la créature de Marie de Médicis, qui sont partis avec elle. Et cela, alors en tête, Morgue, qui est le plus célèbre, va devenir son ennemi juré et va créer cette légende noire qui va perdurer, mais que Richelieu a utilisé lui-même aussi pour se forger son personnage,
son vivant, oui.
Dont on parlait tout à l'heure, avec cet aspect de contradiction qu'il rendait mystérieux et terrifiant. Donc il s'est servi aussi de cette image. Et ensuite, cette image du personnage insaisissable et tyrannique va perdurer très longtemps.
Et comme à chaque fois qu'une image est bien fixée dans l'histoire et dans la légende, il y a un personnage qui, au XIXe siècle, va la reprendre et la magnifier, c'est bien sûr Alexandre Dumas qui va donner à Richelieu la physionomie quasi définitive du personnage. Je dis quasi définitive parce que nous allons voir avec vous, Cécile Dalbis, que depuis quelques années, les choses se sont quand même un peu... On est revenu un peu sur les certitudes et les choses sont devenues un peu plus nuancées et un peu plus subtiles.
Une gavotte sur Europe 1 composée par Philidor Franck.
Il reste pas mal de souvenirs néanmoins de Richelieu. À Paris, il a sa rue, le site, l'ancien site de la Bibliothèque nationale de France, enfin, qui est toujours celui des manuscrits, reste le site Richelieu. Il y a un pavillon du Louvre. Enfin bon, ce mot-là reste présent néanmoins, objectivement.
Oui, le mot de Richelieu dans le Paris d'aujourd'hui évoque toutes sortes de choses. Alors on a le Palais Royal, évidemment, qu'il a construit, qui était
malheureusement
le
totalement
palais...
rebâti. Au 18e,
rebâti,
enfin bon.
Mais bon, quand même. Et l'ensemble de ce quartier dont il avait fait le premier quartier ministériel à Paris. Et en effet, tout ce quartier évoque une certaine pompe républicaine liée aux gloires du passé.
Alors, le personnage est devenu un personnage populaire, ou, même si c'est un méchant, grâce à Alexandre Dumas ou à cause d'Alexandre Dumas. Ce sont les Trois Mousquetaires, en fait. Il est le cinquième personnage des Trois Mousquetaires.
Oui, c'est un personnage très très important pour Alexandre Dumas et qui lui a donné sa physionomie encore actuelle, qui reste celle d'aujourd'hui. Toutefois, Alexandre Dumas a un peu réhabilité le personnage qui avait été perçu
encore
de façon
plus décrié, oui.
Qui était encore plus décrié par les romantiques, qui voyaient vraiment en lui un tyran de basse naissance. Et un personnage ignoble. Et Dumas en fait quand même un personnage qui est le méchant, mais qui sait reconnaître la valeur des gens. Et un bon serviteur du roi.
Et tout simplement, Dumas lui a redonné chair. Et à travers Dumas, il est entré au théâtre et au cinéma, bien entendu. Le personnage de Richelieu est très connu dans le monde entier, grâce à tous les films qui ont été tirés du roman d'Alexandre Dumas, bien entendu. Il fait partie, alors, cette image qu'on a, cette espèce de cardinal, là, d'homme en rouge, etc. Est-ce que cette image, d'après vous, a un quelconque rapport avec ce qu'a été vraiment Richelieu? Ou est-ce qu'on est dans la construction pure?
Alors, je crois que ce qui est intéressant dans la filmographie, c'est qu'elle raconte pour chaque génération ce qu'on a envie de voir d'une certaine époque, mais aussi elle reflète l'époque à laquelle le film a été filmé. Et elle raconte évidemment une partie de ce qu'était Richelieu, et surtout, ça fait partie de lui. C'est-à-dire, ce qu'on raconte aujourd'hui de lui fait partie intégralement du personnage. On ne peut pas dire qu'il y avait un Richelieu au XVIIe siècle, il y en a un autre qu'on raconte aujourd'hui. C'est un personnage qui continue à vivre à travers ses films.
Ça, c'est passionnant. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fascinant dans l'histoire, finalement. C'est la vie post-mortem d'un personnage qui évoluera. Il y a eu le vrai Richelieu. Il y en a d'ailleurs peut-être plusieurs, car il était une personnalité très complexe. Et puis, petit à petit, chaque siècle apporte sa petite pierre à l'édifice du personnage, en quelque sorte. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Richelieu, d'après vous, outre le fait qu'il soit le protecteur, enfin le fondateur de l'Académie française ?
Alors, il reste une image plus apaisée, il me semble, aujourd'hui, plus équilibrée aussi par rapport au roi qu'on est en train de réhabiliter, de faire sortir du silence
dans
lequel il
était. Louis XIII est en pleine réhabilitation en ce moment, objectivement.
Voilà, et une image un peu plus consensuelle parce que voilà, c'est quelqu'un qui représente une certaine gloire française passée.
Et puis, un certain sens de l'État.
Un certain sens de l'État, simplement. Et on redécouvre aussi que c'était un grand mécène, un grand collectionneur et un grand bâtisseur.
Merci beaucoup, Cécile Dalbis. Je rappelle que votre ouvrage, Richelieu, est publié chez Armand Collin.